RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de cette US Open 2026. Hein, j'ai une meilleure voix qu'hier, hein, mais c'est vrai que là, hier, on a eu 13 heures de tennis. J'ai enregistré mon podcast à peut-être 4h du matin. Ben là, tranquille, il est 22h40, la journée est terminée, donc comme quoi ça se ressemble pas. Il y avait un débat dans le Moscato Show pour dire il faut arrêter les night sessions, mais non, c'était juste un coup de pas de chance, puisque je rappelle, mardi, il y a eu 13 heures de jeu, il y a eu un concours des circonstances terribles. Bon voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été la même musique, et donc on a eu des matchs assez moyen, on va dire, avec quand même des événements historiques. Et c'est pour ça qu'on va commencer par le tableau féminin, puisqu'on a donc l'affiche de la deuxième demi-finale dames. Ça opposera Coco Gauff à Elena Rybakina. Et donc, si vous suivez l'actualité du tennis, vous en avez déduit que Elena Rybakina a touché le Graal, elle a accompli son rêve de jeune fille, puisque grâce à sa victoire donc en 3-7, 3-6, 6-1, 6-4, face à notre amie Zheng, la chinoise, sortie des qualifs, la championne olympique, eh bien, c'est mathématique, elle est officiellement numéro 1 mondial. Ce sera marqué noir sur blanc lundi, ce sera sur l'ordinateur de la WTA lundi, mais bon, les calculs sont faits. Elle est assurée d'être la 30e numéro 1 mondial de l'histoire, la deuxième plus âgée, ça c'est une stat aussi hein, qui est intéressante. Et vous, bien sûr, vous avez vu les images, elle s'est roulée par terre, c'était vraiment une image fantastique. Moi j'ai des amis photographes qui m'ont dit « j'ai des plaques fantastiques, elle s'est roulée par terre, on l'a jamais vue comme ça ». Non, je blague bien sûr. Beaucoup de discrétion chez Elena Rybakina, comme d'habitude, comme souvent, à chaque fois qu'elle gagne un grand titre. Non, on a l'impression que rien ne l'émeut. Alors c'est son caractère, elle est comme ça, elle est timide. Mais c'est vrai, il y a quand même eu un petit point serré, parce que c'est quand même un accomplissement hein, pour Elena Rybakina, donc, qui réalise une saison assez extraordinaire, puisque j'ai quand même regardé son activité depuis un an. C'est vrai qu'il y a, du lourd, comme on dit. Alors, dans l'ordre chronologique, donc juste après l'US Open 2025, où elle avait perdu en huitième de finale. Donc on savait qu'elle avait très peu de points à défendre, elle le savait, les calculs avaient été mâchés par la WTA, on savait qu'elle pouvait piquer la place de numéro mondial à Sabalenka à condition d'atteindre les demi-finales. C'est ce qu'elle a fait. Donc, elle n'a rien volé, les points, elle les a. Elle a un titre à Ningbo, donc en Asie, le Masters à Riyad, donc au mois d'octobre, la victoire à l'Open d'Australie contre Sabalenka, finale renversante puisqu'elle était en retard au score dans la troisième manche. Pas de titre à Indian Wells, mais une finale, ça fait beaucoup de points. Un titre à Stuttgart, donc sur la terre battue indoor. Et puis donc, on va tenir compte de ces points, de sa demi-finale ici à New York. Donc ça suffit donc pour déboulonner Aryna Sabalenka. Et elle fait une belle numéro 1 mondiale, je trouve, parce que c'est vraiment une fille qui a des qualités assez fabuleuses en ce qui concerne la frappe de balle, le service. Je pense que c'est le meilleur service du circuit. Frappe de balle absolument impeccable. Non, il n'y a rien à redire. Bon, sur le charisme, évidemment, c'est pas pareil. Voilà, elle fait tout en discrétion. Moi, je me souviens très bien de sa première victoire à Wimbledon où on a l'impression que il s'était rien passé, quoi. Alors qu'on était quand même dans un cadre fabuleux, tu peux t'exprimer, mais non, voilà, c'est dans son caractère, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, dans cours numéro 1, on ne l'avait jamais écouté. Eh bien, c'était l'occasion ou jamais. Elle est numéro 1 mondial, et donc elle est passée en conférence de presse. Et je vous propose donc quelques petites phrases de la Kazakhstanaise. Enfin, Kazakhstanaise, ça me gêne un peu de dire ça, parce que on connaît son histoire, elle est née en Russie et donc elle a été naturalisée kazakhstanaise. J'ai même envie de dire qu'elle a été achetée par la Fédération du Kazakhstan parce qu'en termes d'image, c'est bien. Mais donc maintenant, elle défend les couleurs du Kazakhstan, mais c'est une joueuse russe. Ses parents sont encore en Russie. Mais bon, pour l'histoire, pour la WTA, il faut marquer KAZ derrière son nom. Donc écoutez-la.
Well, it means a lot, of course. But as I was saying before, I don't think about it so much. It's a great achievement, and I feel like you will appreciate and think about it even more when you finish your career, or like now you still need to keep on going, and it's nice whenever you're done to say, okay, I won this tournament, I've been number one, it's amazing, but right now it's great. You never know how long you're going to stay. It's still, you know, many things, and I want to win the titles, still in the tournament, so all my thoughts are just for the next match.
Elle a un petit accent sympa, donc je vous donne évidemment sa petite traduction. Eh bien, ça compte beaucoup, bien sûr, mais comme je le disais sur le court, je n'y pense pas trop. C'est une belle réussite et j'ai l'impression qu'on l'apprécie et qu'on y repense encore plus quand on a terminé sa carrière. Pour l'instant, ils font continuer à aller de l'avant et c'est agréable, une fois que c'est terminé, de pouvoir dire « Bon, j'ai remporté ces tournois, j'ai été numéro 1, c'est incroyable, mais pour l'instant, c'est génial. » On ne sait jamais combien de temps on va rester au sommet. Il reste encore beaucoup à faire. Je veux continuer à remporter des titres dans les tournois. Donc, je ne pense qu'au prochain match. Voilà, ça c'est la petite phrase choc, on va dire. Hein. Vous voyez, c'est pas de quoi renverser des montagnes. Hein. Mais au moment de cette conférence de presse, elle ne connaissait pas encore son adversaire. Et maintenant, elle est fixée. Elle sait que jeudi soir, en night session, puisque les demi-finales dames ici à New York se jouent en night session, elle sait qu'elle se mesurera à une star ici, Coco Gauff, qui s'est qualifiée donc en battant Mira Andreeva qui est encore coincée sur le plan psychologique, mais qui s'est aussi trompée tactiquement parce qu'elle avait vraiment le match en main. Elle remporte la première manche 6-2. Je pense qu'elle a voulu vivre sur ses acquis et elle n'a pas su enfoncer le clou. Elle a pourtant eu deux balles de match face à Coco Gauff, mais Coco Gauff a été audacieuse, elle a été agressive. C'est elle qui est allée chercher les points. Et Mira Andreeva peut s'en vouloir parce que c'est pas en étant attentiste que tu vas chercher un grand titre. Alors sur terre, ça peut fonctionner parce qu'elle a des qualités naturelles qui sont peut-être différentes, mais sur dur, sur une surface aussi rapide, il faut aller chercher les points, Mira. Et voilà pourquoi elle s'est retrouvée presque à pleurer en conférence de presse avec cette défaite 2-6, 7-6, 6-2. Beaucoup de regrets donc pour Mira Andreeva qui avait l'occasion de frapper un grand coup ici à New York et elle aussi de se rapprocher de la place de numéro mondial à court terme parce que pour l'instant, la position de Elena Rybakina est encore extrêmement fragile, sauf évidemment si elle gagne le titre, parce que là, elle va prendre une avance considérable à la WTA et pourra peut-être gérer son avance en vue du titre symbolique, mais quand même qui est très important de numéro mondial à la fin de la saison. Donc Rybakina Gauff, superbe affiche. La première demi, on la connaissait, hein, puisque c'est Aryna Sabalenka qui affrontera Jessica Pegula. Elles se sont déjà jouées à New York, les deux joueuses, et à chaque fois, la Bélarusse en est sortie. Mais Pegula va, je pense, assumer avec beaucoup de brio et beaucoup de talent son rôle d'outsider. Ça va être un match intéressant à suivre. Donc, je le rappelle, si vous êtes fan du tennis féminin, ce sera donc à partir d'une heure du matin, heure française, puisque c'est une tradition ici et c'est dû bien sûr à la domination de Serena Williams. Il fallait mettre ça en night session, c'était très bon pour les chaînes de télévision américaines, ESPN ou CBS quand c'était CBS. Donc c'est mieux pour l'audience, effectivement, de mettre Serena Williams en night session. Donc on continue sur cette tradition. Donc Pegula, Sabalenka, suivi de Gauff, Rybakina. Vous l'avez peut-être noté, hein, les quatre premières têtes de série sont là, donc vraiment c'est une édition exceptionnelle, totalement à part. C'est très rare que les quatre meilleures joueuses du monde soient réunies dans le dernier carré, et ça nous promet évidemment des étincelles pour cette night session jeudi soir. Les garçons maintenant, là je vais pas vous rendre du jeu. Les garçons maintenant, là je vais pas vous vendre du rêve, parce que franchement les deux rencontres qui étaient au programme n'ont pas déchaîné les passions. On a même vu des sièges vides. C'est vrai que quand vous achetez vos tickets en avance, vous pouvez pas savoir quelles affiches vous allez avoir, mais ceux qui avaient les tickets pour ce mercredi, c'était pas vraiment bonne pioche. D'abord il y a eu un abandon puisque Blocks, le jeune belge Alexander Blocks, n'a pas pu aller au bout de son match. on le craignait parce que déjà contre Cerundolo, il avait souffert physiquement avec des douleurs assez violentes aux côtes. Il s'était gavé d'anti-inflammatoires. Il portait un emplâtre à la cuisse. Ruben Bemmelman, son coach, avait voulu être rassurant auprès des médias belges mardi, mais voilà, il a tenu 2 heures. Une fois qu'il était mené 6-2, 7-5, 3-2, il a préféré abandonner par précaution parce qu'il est en compte de Coupe Davis aussi pour la Belgique, qui est importante si elle veut revenir au Final 8 de Bologne. On est bien placé pour savoir qu'ils avaient été bons puisqu'ils avaient battu à Bologne. Donc abandon, point d'interrogation pour Blocks. Bon, il fait un super tournoi, rien à dire, il va monter au classement, mais il y a quand même une ressemblance avec Milos Raonic, vous ne trouvez pas quand même? Moi ça m'a frappé, et Milos Raonic lui aussi était accablé par les blessures. Donc j'espère qu'il n'aura pas une carrière à la Raonic, mais en tout cas il a signé un parcours en chelem épatant. On en reparlera bien sûr parce que c'est un garçon qui a d'immenses qualités de frappe, il est très grand donc il va pouvoir s'appuyer sur son service, et on sait que c'est vital dans le monde du tennis des années 2020. Khachanov, belle histoire, 50e mondial depuis Wimbledon 2018, il était toujours tête de série et là il n'était pas. Je pense que ça agit, le garçon était vexé et voilà, donc il lui fallait un grand parcours pour retrouver un statut de tête de série à l'Open d'Australie. C'est dans la poche, c'est fait, parce que quand tu pètes une demi-finale, bah, tu prends énormément de points. Et je peux vous dire que donc il sera aux alentours de la 25e place, au pire, lundi prochain. Khachanov, mais on le voyait venir. À partir du moment où il a sorti Oji Aliassim, on se doutait que c'était tout à fait possible qu'il revienne en demi-finale, ici pour la deuxième fois donc, de sa carrière à Flushing Meadows, avec donc des victoires derrière que sur Benjamin Bonzi. Le match clé, bah, ça a été contre Tienne, bien sûr, victoire 6-4 à la belle, avec un niveau de jeu monstrueux et une adversité remarquable. Bah, aujourd'hui, il en a profité, hein. C'est presque des vacances ce match, hein. Mais il est en train de retrouver son tennis, il a changé de raquette apparemment, et comme quoi, un petit détail, ça peut tout changer dans un joueur qui était peut-être en plein doute, parce que cet été, il avait perdu sur Bernard Tomic. Alors là, j'avoue que ça avait surpris tout le monde. Mais on a retrouvé du grand Khachanov, garçon très dangereux, qui met beaucoup de cadence, rigoureux. Bon, ça fait pas monter au plafond sur tennis, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, c'est l'efficacité qui prédomine. Et pour l'instant, Khachanov, bah, il a un peu le même système de jeu que Zverev, qui donc sera son adversaire vendredi, l'Allemand qui s'est imposé en 3 manches, 6-2, 7-5, 6-1. Partie sont tranquilles pour Sacha Zverev, qui retrouve un niveau de jeu très intéressant après un début de tournoi très poussif, puisque le 1er septembre, il avait été à 2 points de la sortie de route face à Lorenzo Sonego. 2 jours plus tard, tout près d'être mené 2 manches à 1 par Quentin Alice, qui a mené 4 en 3e avant de perdre un petit peu pied, mais quand même de pousser l'Allemand au 5e set. Mais depuis ces 2 alertes, c'est un parcours absolument sans faute, parce que 3-7 contre Tabilo, 3-7 contre Darderi, et donc 3-7 contre Van de Sonschoop, qui peut regretter donc une occasion. Il a eu balle de 7 dans la 2e, et là, paf, Zverev a fermé la porte, comme il sait si bien le faire. Il est d'une régularité impressionnante en chelem. Un seul joueur cette année est parvenu à atteindre les demi-finales. Bah, c'est Zverev. Je vous le dis, il a un profil de numéro mondial. Parce que j'ai jeté un œil évidemment au classement, notamment la race. S'il bat Khachanov vendredi, il sera numéro 1 ex aequo à la race avec Yannick Sinner. Donc vous pourrez avoir un mano à mano absolument passionnant pour la place de numéro mondial de fin d'année, avec donc des explications à Shanghai, et puis surtout la fin de saison qui va être géniale, puisque ils vont se tirer la bourre, et notamment à la Défense Arena, avant l'explication finale à Turin. Donc attention, cette place de numéro 1, il la veut. C'est un garçon qui est là depuis très longtemps sur le circuit, on a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel énorme, il a toujours annoncé la couleur: je veux gagner un chelem et je veux être numéro 1. le chelem, c'est dans la poche depuis Roland Garros, après un paquet de désillusions. Mais voilà, le déclic est arrivé et maintenant il fait peur. Il fait peur parce que il est très très dur à bouger. Très très dur à bouger. C'est vraiment un mec qui fait pas de faute, qui se trompe rarement, qui a besoin, quand il a besoin d'une première balle, il sonne sur un petit bouton, il appuie sur un petit bouton, elle arrive et ça lui permet de se sortir de situations très compliquées. Il partira évidemment favori de son match contre Khachanov. Il y a 6-3 au face-à-face. Khachanov l'avait battu l'an passé à Toronto, donc dans des conditions à peu près identiques. Sauf que là, on est en 5-7. Et en 5-7, Zverev, c'est un monstre. Cela dit, en face, c'est physique aussi. Donc ça promet quand même une rencontre assez ouverte. On va attendre la programmation. Parce que la logique veut que ceux qui ont joué les premiers jouent la demi numéro 1. Donc en l'occurrence, Shelton et Tiafo, sauf que là, il y a les télés américaines qui, à mon avis, vont vouloir que ce soit la deuxième. La deuxième à partir de 16h30 ou 17h, je ne sais plus, j'en aurai la confirmation demain, mais de mémoire, c'était ça. Quoi. Premier coup d'envoi de la première vers 13h, et puis la deuxième à suivre. Il n'y aura pas de night session hein, vendredi, je vous le rappelle. Donc oui, ça va être un petit débat, je pense, entre Greg Taylor et les télés américaines, donc en l'occurrence ESPN, parce que c'est vrai que le Tiafoe Shelton, en termes d'audience, c'est mieux que ce soit programmé en prime time, donc vers 17-18h. C'est comme en Europe. Quoi. Vous doutez bien pourquoi il y a des gens qui travaillent ici à New York. Donc voilà, eh ben, le dernier carré est connu. Il n'était pas facile à trouver. Mais Zverev est là, Tiafoe, Shelton, c'est du costaud. Et puis il y a donc Khachanov, qui est donc la seule non-tête de série, mais qui a été déjà demi-finaliste à deux reprises dans les chelems. Je voulais terminer ce podcast avec deux mauvaises nouvelles, malheureusement, côté tricolore, puisque Daniel Jade jouait son huitième de finale en junior sur un petit court annexe face à un Américain redoutable, Jordan Lee. Il n'a pas fait le poids, le Normand, défaite en 2-7, 6-3, 6-4. Ce Lee, c'est vraiment un super joueur. J'ai été bluffé par son jeu de jambes. C'est un mec qui est très aérien, qui a gagné Wimbledon Junior. Donc voilà, il est en train d'exploser. Et les Américains, ils sont en train de nous proposer une relève très intéressante. Puis ils ont aussi le petit Kennedy, Jack Kennedy. Je crois qu'ils ont Mackenzie, je crois qu'il a gagné aussi. Donc non, il y a du bon monde. Mais attention, Jordani va jouer demain la tête de série numéro 1, le Brésilien Guto Miguel. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est moins drôle, Manuel Guinard, qui jouait son quart de finale en double avec son compère argentin Guido Andreozzi. Ils se sont inclinés contre la paire tête de série numéro 1, Eliovara Paten. Je vous donne le score, 6-7, 7-6, 6-3 ou 6-2. Eh oui, vous l'avez compris, il y a eu des balles de match. Ils ont eu des occasions, ils ont eu des balles de match et malheureusement, le Finlandais et l'Anglais ont repoussé la menace avec beaucoup de talent, avec notamment un ace sur deuxième balle de Paten, le gaucher. Et derrière, je crois qu'ils n'ont jamais pu chasser ces occasions de leur cerveau, les deux. Et Manu Guinard donc quitte. Tout en loi, c'est dommage parce que en termes de points c'est une mauvaise opération parce qu'on sait qu'il est tout à fait dans la course au Masters et s'il avait pu prendre 200 points de plus c'était parfait quoi. Malheureusement non et puis maintenant il va falloir cravacher sur les tournois qui arrivent. Alors avant de refermer le chapitre de ce podcast, je voulais vous faire écouter Manu Guinard, non pas sur cette défaite parce que hier on l'avait fait avec un confrère sur son rêve de jouer en bleu et on sait qu'il y a Canada-France qui arrive avec une paire de doubles dont on n'a pas la compo parce que le forfait d'Arthur Fils change à mon avis les plans de Paul-Henri Mathieu. Et ben on a un Breton qui est candidat au poste, écoutez-le, il en parle avec beaucoup de sincérité, il est cash.
C'est un objectif, c'est un but, je vais pas le cacher. J'ai extrêmement envie de jouer pour l'équipe de France. Je pense que j'ai l'état d'esprit pour. Pour le moment, je pense que je dois encore faire mes preuves parce que je suis un peu un genou dans le double. Certes, je joue pas avec un Français, mais je peux m'adapter très vite. Si on m'appelle, je serai très heureux et je pense que je serai à fond pour l'équipe et je donnerai le meilleur de moi pour aider cette équipe de France. Mais c'est sûr que ouais, j'y pense. Et...
T'as déjà le survêtement, je me trompe pas.
Ouais, c'est vrai que j'avais été sparring pendant une semaine. C'était Valence, Séville, non, Valence, c'est ça, je crois. Et franchement, moi, ça m'a. C'est horrible, mais ça m'a fait goûter à. Ça m'a fait goûter à la Coupe Davis et depuis c'est vrai que j'y pense beaucoup donc voilà quand j'étais sur cette semaine-là j'ai essayé de mettre les gars dans les meilleures dispositions pour qu'ils soient performants et c'est vrai que en étant à ce contact-là ça te donne envie de jouer, ça te donne envie de te battre pour eux donc je pense que c'était une semaine qui m'a fait beaucoup de bien moi dans la tête, c'est un truc que j'ai vraiment envie de vivre.
Je pense qu'il y a un petit désavantage de jouer avec un étranger.
Honnêtement j'en sais rien, maintenant si c'est le cas et tant pis, je ferai encore plus mes preuves. S'il faut encore plus montrer parce que je joue avec un étranger, je le ferai. Moi, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Et puis, si ça suffit, tant mieux. Si ça suffit pour être appelé, tant mieux. Si ça suffit pas, je travaillerai encore plus dur pour y être et pour essayer de m'imposer.
Non, mais je pense qu'à court terme, Manuel Guinard, il va cogner à la porte. Hein, parce que c'est un mec qui est totalement dedicated à sa nouvelle discipline de double, qui s'investit, qui bosse, qui est en train d'apprendre un peu le jeu si subtil de double, parce que c'est un garçon qui aime bien coller au filet, mais il a peut-être effectivement un petit désavantage en jouant avec un étranger. S'il pouvait s'associer à un joueur français de qualité, peut-être que ça pourrait séduire Paul-Henri Mathieu, mais au moment où on se parle, Emmanuel Guinard nous l'a confirmé, il n'a pas eu de coup de fil et Paul-Henri Mathieu n'était pas dans les tribunes ce soir de ce quart de finale, donc il a d'autres plans en tête et d'après mes infos ce serait plutôt Benjamin Bonzi qui est retourné en France qui serait rappelé et le cinquième homme pourrait être aussi Lucas Van Haché, à moins que Arthur Géa ait séduit le capitaine tricolore ou séduit en très haut lieu, et auquel cas on peut envisager un petit coup de pression. C'est ce que je vous avais dit dans le précédent podcast. C'est peut-être pas totalement cuit pour Arthur Géa. La réponse, on l'aura très bientôt, puisque l'équipe de France, enfin ceux qui sont restés au Canada, ceux qui sont restés à New York, prennent l'avion pour le Canada jeudi. Donc départ imminent pour les Bleus, pour tenter d'aller décrocher leur qualif pour le Final 8 de Bologne, avec une équipe un petit peu amoindrie. Mais bon, en simple, on aura normalement Arthur Guinart-Neche et Quentin Lys. Ça tient la route. Quentin Lys, il a tenu tête à Sacha Zeref et il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas tête à Félix Auger-Aliassime ou Denis Shapovalov, si jamais la Fédé canadienne a sorti une petite enveloppe pour rattraper par les bretelles le gaucher Denis Shapovalov, qui n'est pas en odeur de Saint-Nez, qui ne figurait pas sur la première liste des Canadiens. Mais d'après ce qu'on croit savoir ici à New York, ça a négocié ferme pour essayer de ramener au bercail Denis Shapovalov, parce que voilà, c'est une rencontre importante pour le Canada, qui va jouer devant 10-12 000 personnes, dans une salle immense, c'est la salle des hockeyeurs. Donc ils ont intérêt quand même à présenter du matériel. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça joue encore, mais ce sera sans moi. C'est un double, c'est le quatrième quart. Et surprise, la paire italienne Bolelli-Vavassori va se faire sortir. Bon, il n'y a quand même quasiment aucun doute. Ils sont menés 6-3-4-0 par Harrison Skupski. Ça, c'est une vraie surprise. Allez, ciao, ciao.
RMC, cours numéro 1.